Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, l'entre-deux-tours en France. L'entre-deux-tours, c'est cette période entre le premier et le deuxième tour, des élections régionales au cours desquelles des alliances sont nouées. Ainsi, ce lundi, l'union de trois listes de gauche a été annoncée en Île-de-France pour tenter de battre dimanche la sortante Valérie Pécresse.
Il est l'un des rares journaux d'opposition à Hong Kong et il pourrait bientôt devoir fermer. L'Apple Daily n'a plus les moyens de payer ses salariés suite à la répression menée par les autorités.
Dans cette édition également, un procès pour trancher sur la question de l'interdiction du HDP en Turquie. Le HDP, ce parti pro-kurde qui se trouve dans l'œil du président Recep Tayyip Erdogan.
Le journal en français facile.
Au lendemain du premier tour des élections régionales en France, c'est l'heure des tractations.
Oui, les tractations, les traditionnelles négociations pour sceller des alliances en vue du second tour ce dimanche. Les deux accords les plus importants annoncés aujourd'hui concernent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le sud-est de la France et l'Île-de-France, donc la région parisienne. En PACA, l'écologiste Jean-Laurent Feitia, arrivé hier en troisième position, se retire et il appelle à voter pour le candidat du parti Les Républicains, Renaud Muselier, qui affrontera dimanche le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Et puis en Île-de-France, une union entre trois listes de gauche annoncée, une union portée par l'écologiste Julien Bayou qui va tenter de battre dimanche la sortante Valérie Pécresse, ancienne du parti Les Républicains. Dans tout cela, qu'en est-il du parti présidentiel? C'est l'un des enseignements du premier tour. La République En Marche enregistre un nouvel échec. Détail avec Valérie Gasse.
C'est dans les Hauts-de-France que le mauvais score de la majorité présidentielle est le plus symbolique. 5 ministres avaient été envoyés au front électoral, dont le médiatique Éric Dupond-Moretti, pour tenter de marquer des points face au Rassemblement National et à Xavier Bertrand. Peine perdue, la liste fait moins de 10%, ne peut même pas figurer au second tour et laisse à Xavier Bertrand le titre de champion de la lutte contre le RN. 4 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel n'arrive toujours pas à exister localement. Sans ancrage territorial, les candidats se cassent les dents face aux sortants de droite et de gauche. Même le ministre Modem, Marc Fesneau, candidat en Centre-Val-de-Loire, pourtant déjà élu dans la région, doit se contenter de la 4e place. Tant et si bien qu'au second tour, la majorité présidentielle sera quasiment inexistante et ne grappillera que quelques miettes électorales. Pas de quoi améliorer son implantation locale ou concrétiser la recomposition politique promise en 2017. Même si tout est fait pour minimiser l'impact de cet échec et pour dissocier le sort d'Emmanuel Macron de celui de son parti, ce revers va laisser un goût amer avant l'ouverture de la campagne présidentielle.
Valérie Gasse, et on rappelle un autre enseignement majeur de ce premier tour des élections régionales en France. Le premier enseignement, le taux record d'abstention supérieur à 65%. Cela veut dire que ce sont près de 7 personnes sur 10 qui ne sont pas allées voter hier. Cela a amené aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex à lancer un appel solennel à se rendre aux urnes ce dimanche. Se rendre aux urnes, ça signifie donc aller voter.
À Hong Kong, l'Apple Daily va-t-il devoir fermer ?
L'Apple Daily, c'est un journal soutien du mouvement pro-démocratie. En fin de semaine dernière, plusieurs responsables de ce journal ont été inculpés au nom de la loi sur la sécurité nationale, qui signifie davantage de fermeté de la part de la Chine. Et la situation du journal est telle qu'il pourrait bientôt être dans l'obligation de fermer. Une décision dans ce sens doit être prise ce vendredi, car ce que l'on a appris aujourd'hui, Christophe Paget, c'est que le pouvoir de Hong Kong a aussi gelé les actifs du journal.
Notre problème, c'est que le secrétaire en charge de la sécurité et la police ne nous laissent pas payer nos journalistes, notre personnel et nos fournisseurs. C'est ce qu'indiquait ce matin Mark Simon sur la chaîne américaine CNN. Mark Simon, réfugié aux États-Unis, est conseiller de Jimmy Lai, le mania propriétaire d'Apple Daily, en prison pour avoir participé aux manifestations de 2019 et qui risque la prison à vie. Le pouvoir hongkongais emploie aujourd'hui les grands moyens pour se débarrasser de son journal, qui a toujours été une épine pro-démocratie dans le pied de Pékin, mobilisant jeudi dernier 500 policiers pour perquisitionner Apple Daily, arrêter ses dirigeants et s'emparer d'une quarantaine d'ordinateurs de ses journalistes. Malgré tout, Apple Daily était dans les kiosques vendredi, acheté en masse par les Hongkongais. Mais cela sera-t-il suffisant? Les employés pourraient rapidement ne plus être payés, c'est une question de jours, selon Mark Simon. Et puis l'impact psychologique a été grand, expliquait ce lundi le journal dans un éditorial. Les journalistes s'inquiètent maintenant de dépasser des lignes rouges dans leur travail, et le fait que la police ait pu prendre leurs ordinateurs montre qu'ils ne peuvent plus protéger leurs sources. Un message envoyé aussi à tous les autres médias hongkongais, estime Apple Daily.
Christophe Paget.
Et puis en Turquie, cette question, faut-il interdire le HDP ?
Le HDP, c'est le principal parti pro-kurde d'opposition au président Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, la plus haute cour de justice de Turquie a donné son feu vert pour un procès afin de trancher sur la question de l'interdiction ou non du parti. Alors c'est une nouvelle décision visant le HDP qui constitue la troisième force politique au Parlement turc à Istanbul pour RFI. Correspondance à Nandlauer.
En quelques années, c'est peu dire que le HDP s'est pris des coups. Les manifestations de ses militants sont très souvent interdites. Ses membres sont presque systématiquement assimilés à des terroristes. Son chef de file a été emprisonné. Et la semaine dernière, une jeune femme, Denis Poyraz, était tuée par un ultranationaliste dans la permanence du parti à Izmir. Dernier épisode en date, ce lundi, la Cour constitutionnelle turque a accepté de poursuivre une action en justice demandant l'interdiction pure et simple du parti, ainsi que l'inéligibilité de 450 de ses membres. Un procureur avait en effet demandé sa fermeture, arguant de lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, groupe armé qualifié de terroriste. Le HDP a immédiatement dénoncé un procès politique mené en sous-main par le MHP, un parti nationaliste allié d'Erdogan. Il a aussi déploré que la Cour ait raté une occasion unique de se prononcer pour la paix. Si la date du procès n'a pas été précisée, la décision intervient alors que des élections présidentielles doivent avoir lieu dans 2 ans en Turquie. Déjà, certains sondages donnent Recep Tayyip Erdogan en grande difficulté. Cerise sur le gâteau, Istanbul, RFI.
Et dans l'actualité économique, une nouvelle confirmation de la reprise est bien là.
Eh bien oui, la reprise après la pandémie de Covid-19, la reprise économique, cette pandémie qui a durement touché les économies, les taux de croissance repartent à nouveau à la hausse. Et voilà un rapport qui concerne les investissements directs étrangers, on appelle ça les IDE. Ce sont les investissements effectués à l'étranger à la fois par des multinationales et par des États. Ces IDE, donc, vont progresser cette année de 10 à 15% après une chute en 2020 de 35%. Qui va bénéficier de cette croissance? Détail de ce rapport de la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. C'est avec Olivier Roger.
La pandémie avait provoqué un tarissement important des flux d'investissements mondiaux, notamment dans les secteurs stratégiques pour l'emploi et la croissance, comme l'électricité, l'alimentation, l'agriculture et la santé. Mais pour la CNUSED, le plus dur est passé et les IDE, les investissements directs étrangers, vont remonter cette année. Alexandre Dabou, économiste à la CNUSED.
Les IDE devraient se relever de l'ordre de 10 à 15% en 2021. Et dans la fourchette la plus optimiste, on suppose ou on prévoit que les IDE pourraient revenir en 2022 à leur niveau de 2019, soit environ 1500 milliards de dollars.
Toutes les régions du monde ne sont pas logées à la même enseigne. Si l'Europe et les États-Unis bénéficieront des plans de relance gouvernementaux, il n'en va pas de même pour l'Afrique et l'Amérique latine. Cependant, la reprise asiatique va tirer à la hausse les prix des matières premières, ce qui favorisera les pays africains. Ils bénéficieront aussi, selon la CNUSED, d'un changement de stratégie des multinationales. Elles sont soucieuses de délocaliser ou de relocaliser leurs chaînes de production. À terme, la pandémie pourrait donc avoir redistribué les cartes de l'investissement mondial.
Olivier Roger, du service économie de RFI.
Et puis enfin, football, une nouvelle équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro.
Oui, il s'agit de l'Autriche. L'Autriche qui a battu l'Ukraine cet après-midi 1-0. Également dans le groupe C, troisième victoire en autant de matchs pour les Pays-Bas, vainqueurs de la Macédoine du Nord, 3-0. Deux rencontres ont lieu actuellement, comptant cette fois pour le groupe B. La Russie affronte le Danemark, c'est le début de la seconde période, 1-0 pour le Danemark. Et puis Finlande-Belgique, 0-0, c'est également le début de la seconde période. La France qui peut assurer sa qualification dès ce soir en cas de défaite de la Finlande ou de la Russie. On va donc suivre ça toute la soirée dans les journaux de RFI. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci Zéphirin.
Merci à vous Romain.
Et Fabrice Viollet qui était ce soir à la réalisation. 22h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.